Alors, je m'appelle effectivement Guillaume de The Cash. Je suis maître de conférence en psychologie sociale, je pense, expérimentale aussi à l'université Clermont-Auvergne et également donc, chercheur au LabSCO, qui est le laboratoire de psychologie sociale et cognitive ici à Clermont. Dans le passé, j'ai fait une thèse en sciences cognitives à l'École normale supérieure, ensuite un postdoctorat où j'ai travaillé avec les chimpanzés d'Ouganda, dont je vais vous parler abondamment. Par la suite, je suis revenu à l'ENS pour un nouveau postdoc. Enfin, je suis parti à Londres avec la British Academy pour un nouveau postdoc avant d'atterrir ici à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai fait un tout petit peu de chemin. Et donc, j'ai travaillé sur les humains, notamment sur la compréhension et la réaction à la peur dans des circonstances aussi variées que être un chimpanzé dans la forêt, voir un problème dans l'environnement et devoir communiquer à ses congénères à propos du problème, que dans des situations qui nous occupent, nous les hommes, par exemple être dans une salle où il y a un attentat terroriste et devoir s'en sortir. Donc j'ai travaillé sur ces différents modèles, sur ces différentes questions, avec pour thématique générale la communication de la peur à autrui. En tout cas, je me suis toujours intéressé à cette frontière entre l'homme et l'animal, parce que, avec l'idée que l'animal pouvait nous dire des choses sur l'évolution de certaines de nos facultés cognitives et sociales. Alors, pour cet exposé, je voudrais vous emmener à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, en Afrique de l'Est, plus précisément en Ouganda, qui se trouve entre le Kenya, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Et l'Ouganda, elle est bien connue pour sa faune et sa flore. Elle avait été appelée la Pearl of Africa par Winston Churchill, qui faisait l'éloge de, je cite, sa variété de formes et de couleurs, et surtout sa profusion de vie. Lors d'une visite qu'il faisait au protectorat britannique de l'Ouganda en 1907. Plus particulièrement, je vais vous emmener dans la forêt de Budongo, qui occupe une surface d'environ 800 km² et qui se situe dans l'ouest de l'Ouganda. Je ne sais pas si Churchill a visité à l'époque la forêt de Budongo, où j'ai eu la chance de travailler donc, mais les Britanniques, ils ont modifié dans une certaine mesure l'écologie de cette forêt. Dans les années 30, ils ont procédé à une exploitation sélective de la forêt, et ils ont notamment utilisé de l'arboricide sur les Sinometra pour favoriser la croissance de l'acajou qui fournissait un excellent bois de construction. Et ce faisant, ils ont favorisé la forêt mixte et certaines espèces d'arbres, comme les ficus, qui produisent des fruits dont les primates raffolent, ce qui a donc permis à de nombreuses espèces de primates de venir peupler cette forêt. Alors, je vais vous donner une petite idée de comment ça sonne la forêt. En fait, c'est extrêmement loin d'être silencieux. Et chacun des enregistrements qu'on peut faire, moi je travaillais sur les sons des chimpanzés, sont complètement parasités par des bruits d'insectes en tout genre. Je vous laisse voir si le son marche. Donc on a cette espèce de bande sonore à peu près tout le temps, qui vient, je dois le dire, un peu gâcher des fois certains moments, et qui vient aussi gâcher les enregistrements acoustiques qu'on peut faire, qui sont extrêmement précieux. Notamment, moi, je travaillais sur les tout petits juvéniles chimpanzés, avec des sons extrêmement doux qu'il fallait pouvoir enregistrer. Ce brouhaha, il est parfois interrompu par les cris des singes bleus, notamment les cris qu'on appelle le piao, que vous venez d'entendre, qui est lié, entre autres, à la présence d'un danger dans l'environnement qui va être proche de l'animal. Une autre espèce qui est emblématique de la forêt de Budongo, ce sont les colobes noirs et blancs, que l'on peut rencontrer donc, dans la forêt. On les voit ici pris en vidéo par une caméra qu'on appelle une caméra piège. C'est une caméra qu'on pose dans la forêt parce qu'on veut voir des choses qui sont assez inhabituelles, on va dire. Et donc, elle s'allume quand un animal passe devant, quand il y a du mouvement devant l'objectif. Et donc, des fois, on peut avoir affaire à des choses assez cocasses comme un aigle qui prend un bain dans la rivière ou un colobe qui décide d'inspecter la caméra de tout près, comme vous pouvez le voir ici. Et ce sont des animaux véritablement spectaculaires. Et le seul problème avec ces animaux-là, c'est que typiquement, à 5h du matin, ils font des rugissements à grande intensité sonore qui sont presque contagieuses dans l'ensemble de la forêt. Donc, ça veut dire qu'à 5h du matin, on est réveillé. Je donne un petit exemple de ce que c'est. L'intensité sonore ne sera pas fidèle. Je suis désolé. Bon, je crois que j'ai dû me tromper de son, mais c'est une espèce de grognement qui est extrêmement sonore, contagieux dans toute la forêt et qui typiquement vous réveille à 5h du matin. Ces cris, en fait, ils sont aussi produits parfois lorsque les colobes sont chassés par une espèce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, qui sont les chimpanzés. Donc les chimpanzés chassent, ils mangent de la viande, notamment de la viande de colobes. Et on a souvent affaire à ce genre de scène assez spectaculaire. On peut voir des chimpanzés commencer à s'organiser en bas des arbres pour essayer de traquer les mouvements des colobes. À Budongo, où je travaillais, ils sont particulièrement intéressés par les juvéniles ou les individus plus jeunes des colobes qui auraient une chair un peu plus tendre, en fait. Et donc, typiquement, ils vont essayer d'encercler les différents groupes de colobes pour pouvoir les pousser à une erreur, c'est-à-dire tomber de l'arbre et ensuite les récupérer en bas. Il y a même certains auteurs, pas à Budongo mais ailleurs, qui suggèrent que ces chasses sont véritablement coopératives et qu'on est remboursé de son investissement dans la chasse en fonction de quel rôle on a pris en fait dans cette chasse. Notamment, c'est des travaux qui se passaient à Taï en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de voir de nombreuses chasses par les chimpanzés. Ils sont environ 700 dans la forêt de Budongo, de la sous-espèce Schwein furti, donc les chimpanzés de l'Est. Et moi, je me suis particulièrement intéressé à la communauté de Tsomso, qui est observée depuis près de 25 ans et qui comprend environ 70 individus. Cette habituation, elle nous permet de passer à côté des chimpanzés vraiment très près et de les suivre tout le long de leur voyage chaque jour. Et cela signifie aussi qu'ils sont parfois un peu trop proches de nous. Et donc là, on voit une situation typiquement où on est très proche du chimpanzé. La plupart du temps, c'est eux-mêmes en fait qui vont s'approcher de nous de manière assez proche. Mais généralement, on doit garder une distance de 7 mètres vis-à-vis du chimpanzé. On a la chance d'avoir un camp en dur dans la forêt, donc à l'orée de la forêt, entouré par les arbres. Et je vais vous raconter en vitesse, avant de vous parler un peu plus de science, de à quoi ça ressemble une journée un peu dans la forêt de Budongo. Ça commence vers 6h45, on se réunit dans ce qu'on appelle la banda, qui est une espèce de forum du camp. C'est là où s'annoncent les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Et c'est là aussi qu'on doit attendre notre assistant de terrain qui nous accompagnera dans la forêt. J'ai vraiment pas l'intention de faire un truc de photo safari, c'est pour vous expliquer un peu l'ambiance en fait, de ce genre de camp de travail de recherche. Et je voudrais aussi montrer en fait, l'importance des assistants de terrain. Dans ce travail, c'est eux qui sont un peu la clé de voûte d'un séjour de recherche réussi. Parce que pour chaque projet qu'on entreprend, on va être accompagné d'un assistant de terrain et il va tout nous apprendre. Il va nous apprendre à se retrouver dans la forêt, à connaître les 70 chimpanzés par leur visage et par les sons qu'ils font, même parfois. Il va nous apprendre à suivre les chimpanzés sans les stresser. À savoir comment se comporter face à eux, notamment en situation d'agression, des fois qui peuvent être assez spectaculaires entre mâles. L'idée, c'est de jamais, jamais bouger, en fait, quand on se fait même charger par un chimpanzé. Il va finir par faire un détour sur le côté, mais ce n'est pas quelque chose qui s'apprend très vite, parce qu'un mauvais mouvement peut se retourner un peu contre vous. Les assistants de terrain, ils sont souvent des villageois locaux, et ils connaissent les chimpanzés très bien, parce qu'ils ont toujours vécu près de la forêt, et ils sont parfois même victimes des raids des chimpanzés dans les champs d'agriculture locaux. Et vraiment, ils sont vraiment le cœur de la connaissance primatologique, parce que certains y ont passé plus de 20 ans. Et ils sont également extrêmement précieux pour affiner les questions de recherche scientifique. Ils vont savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et une journée typique, c'est beaucoup d'attentes, donc, et des discussions avec les assistants de terrain. Ça peut parfois parler de la première ligue anglaise de foot, mais aussi très souvent des hypothèses de terrain, des expériences de recherche qu'on aimerait mener. Et je crois que c'est un vrai travail que j'aimerais mener de savoir en fait qu'est-ce qu'on peut savoir des chimpanzés si on demandait simplement aux assistants de terrain en fait. Est-ce qu'on pourrait prédire le succès de futures expériences scientifiques en demandant seulement l'avis des assistants de terrain. En tout cas, c'est vraiment un aspect important de la recherche. Dans certaines communautés, ce qu'on fait, c'est que pour être sûr de trouver les chimpanzés dans la forêt, on va les suivre du matin jusqu'au soir pour être sûr de les avoir. Donc on va aller vers le nid où ils vont se coucher et ensuite, le lendemain matin, on va repartir les chercher là où on les avait laissés la veille. Dans la communauté, j'ai travaillé à Budongo, ça ne se passait pas comme ça. Donc typiquement, on va dans la forêt et pour être sûr de voir ce qui se passe, on est attentif aux sons. Les plus minimes, il y a un son qui est un peu moins minime, qui peut porter à des kilomètres et qui va permettre aux individus, des chimpanzés, de parler les uns aux autres dans la forêt. Et c'est ce qu'on appelle un pant-out, qui est un cri vraiment distinctif. Et le pant-out est distinctif au point que chaque individu a sa propre signature vocale. Et vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, le chimpanzé va taper sur l'arbre. Et ça aussi, ce drumming, en quelque sorte, il est distinctif du chimpanzé. Si bien que les assistants de terrain savent quel chimpanzé a fait ce cri, quel chimpanzé a fait ce drumming. Et si par malheur un chimpanzé entend un drumming auquel il n'est pas familier, ça veut dire que c'est un membre d'une autre communauté. Et là, ça devient une menace vraiment sérieuse pour le groupe. Je vous laisse écouter ce pant-out. J'espère que vous avez pu entendre un peu le drumming à la fin. Et typiquement, ces cris, ils ont été très bien décrits. Je ne sais pas si on voit ma slide. Non, pas vraiment. Ils ont été très bien décrits par un de mes collègues qui s'appelle Pavel Fedurek. Ils obéissent à une structure assez régulière. On a une phase d'introduction. Je ne sais pas pourquoi la vidéo dessus. Une phase d'introduction. Un build-up qui va être l'augmentation de l'intensité sonore et de la fréquence fondamentale du cri, une phase de climax qui va être un cri vraiment fort, très bruyant, puis une phase un peu de letdown où l'animal va laisser le son se dissiper. Une fois qu'on entend les chimpanzés, on se précipite vers là où on pense les avoir entendus. Les assistants de terrain, ils connaissent la forêt par cœur, ils savent exactement à quel arbre fruitier les chimpanzés se rendent, donc c'est ensuite assez facile et la tâche qu'on a c'est de pouvoir se déplacer assez vite, ce qui m'a fait moi me rendre compte que j'étais absolument inapte pour une vie en forêt parce que typiquement les déplacements sont extrêmement lents. Dans cette forêt il n'y a pas, heureusement pas d'obstacle majeur si ce n'est une petite rivière qu'on doit traverser avec des ponts. Personnellement, avec mes 90 kilos, j'ai de nombreuses fois cassé les ponts par mon poids. Mais c'est l'ensemble des petites contrariétés qu'on peut avoir. Le reste, c'est la récompense quand on parvient à suivre les chimpanzés. Et moi, plus particulièrement, je suivais les juvéniles, donc je les voyais souvent jouer, comme on peut le voir sur cette vidéo. Donc l'expression faciale que l'on peut voir qui semble assez agressive, c'est ce qu'on appelle une play face. C'est un type d'expression faciale qui sont typiquement liées à une situation ludique en fait, mais qui peuvent paraître agressives de l'extérieur. Donc en fonction des intérêts scientifiques, on va suivre différents individus. Moi j'ai suivi des individus jeunes, en particulier les enfants et les juvéniles. Et donc j'ai eu le loisir de voir vraiment de très nombreuses scènes de jeu. Vers la fin de journée, vers 17h, on rentre au camp et là, c'est une période un peu moins marrante qui commence à apparaître. C'est là où on rentre l'ensemble des données et parfois même on a la chance d'avoir quelques surprises, les chimpanzés qui viennent traverser le camp et qu'on peut continuer à voir lors de la journée. Je vous montre une dernière petite vidéo sur un peu un autre inconvénient du camp. C'est un endroit idéal pour s'y reposer, mais parfois on est importuné par certaines espèces. En tout cas, on importune aussi d'autres espèces qui viennent en fait dans leur propre territoire. Donc là, ce qu'on voyait, c'est un serpent qui un jour était dans le bureau que j'occupais alors. Et je pensais que c'était un bout de bois avant de me rendre compte qu'il y avait cet énorme serpent en fait dont on n'a jamais vraiment, qu'on n'a jamais vraiment réussi à identifier, mais qui était véritablement d'une grande ampleur. Donc, je vous ai parlé des chimpanzés sans vraiment vous les présenter. Comme vous le savez, les chimpanzés, ils font partie des quatre grandes espèces de grands singes. On a les gorilles, les orang-outans, les bonobos, et ici donc les chimpanzés qu'on appelle les chimpanzés communs. Et si on regarde un arbre phylogénétique, on estime qu'il y a environ 6 millions d'années, on a ce chiffre, ce nombre, pardon, va varier, hein, selon les publications plus récentes, mais on estime qu'on a eu un ancêtre commun avec les chimpanzés il y a environ 6 millions d'années, et avec les chimpanzés et les bonobos. Et on a eu un ancêtre un peu plus ancien avec, pardon, ici, entre les gorilles, les chimpanzés et les humains, et un ancêtre encore plus ancien entre Pongo, donc les orang-outans, pardon, c'est ici, les gorilles, les chimpanzés et les humains. Les chimpanzés, ils vivent dans des groupes multimâles, multifemelles, donc plusieurs mâles, plusieurs femelles. Ils ont une société de type fission-fusion, c'est-à-dire qu'ils vont sans arrêt être en petits groupes, se réunir avec le groupe plus large, repartir en petits groupes, se réunir avec le groupe plus large, etc., toute la journée. Les mâles, ils vont être en compétition pour la hiérarchie et pour l'accès aux femelles. Et les femelles qui ont des petits vont rester en périphérie du territoire, alors que les femelles qui veulent avoir des enfants, en quelque sorte, même si le mot « veulent » est un peu fort ici, vont rester avec les mâles de manière plus centrale. Les chimpanzés se nourrissent de fruits, de feuilles et de viande, et leurs prédateurs, les dangers, c'est les léopards, les serpents et les humains. Ce que veut dire ces éléments de la structure du groupe, et surtout de la question de la dispersion dans la forêt, c'est qu'en fait, il leur faut des signaux pour la régulation des interactions sociales, notamment pour les mouvements. Okay, il leur faut aussi des signaux pour optimiser la recherche de nourriture, notamment trouver les bonnes sources de nourriture dans l'ensemble de la forêt. Donc, ils ont une connaissance extrêmement importante de leur territoire. Ils savent très bien quand un tel ou tel arbre va finir par donner ses fruits. Mais ils vont quand même de fréquentes visites pour un peu checker ce qui s'y passe, et ils vont communiquer à ce propos avec les autres chimpanzés dans le groupe. Et d'autres signaux vont être utilisés pour éloigner les prédateurs ou signaler un danger aux congénères. Donc l'idée, c'est que ces impératifs, en quelque sorte sociaux et écologiques, vont forcément être associés à des cris pour faire différentes choses. Les signaux des chimpanzés, ils sont de différents types. On sait qu'il y a des signaux gestuels, donc avec notamment l'utilisation de la main. Et si ça vous intéresse, il y a ce qu'on appelle le dictionnaire du grand singe, The Great Ape Dictionary, qui a été produit par Catherine Obiter et ses collègues, qui est une ressource vraiment exceptionnelle sur le comportement gestuel des chimpanzés et également des bonobos. Les chimpanzés vont aussi utiliser le comportement facial. Et enfin, ils vont pas mal aussi utiliser le comportement vocal. Donc ces différentes modalités, elles peuvent se combiner les unes aux autres. Je connais mieux le comportement vocal, et en fait, il n'y a pas de si nombreuses descriptions du comportement vocal des chimpanzés, et il y a entre 13 et 32 cris. Si on les compare à d'autres espèces de primates, c'est une espèce qu'on comprend assez mal, en fait, en termes de communication vocale, parce qu'elle est extrêmement complexe. Elle est extrêmement complexe parce qu'elle est extrêmement gradée. En fait, on peut passer d'un type de cri à un autre très facilement, et c'est difficile de voir où est la frontière en fait, acoustique. Donc on pourrait avoir une frontière acoustique à l'oreille pour l'homme, mais la question c'est aussi quelle frontière acoustique fait sens pour le chimpanzé. Ça c'est extrêmement dur, extrêmement difficile à investiguer. Et en fait, le problème des répertoires, c'est qu'ils ont été faits vraiment à l'oreille. Pour ma part, j'ai une vision vraiment simpliste que je considère une vision de travail, en fait. C'est-à-dire que j'utilise ça pour travailler. Je sais bien que ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est celle qui me semble la plus optimale pour le moment. En tout cas, c'est d'imaginer qu'il y a quatre grandes unités vocales chez chimpanzés qui peuvent être répétées, qui peuvent grader à l'aide d'une unité vocale à une autre et qui peuvent se combiner également, si on comprend assez mal les combinations pour le moment des chimpanzés, mais ça vient, il y a du travail là-dessus. Le premier, c'est le grunt, le bark, le pant et le ouf. Je vais vous faire écouter ces différents sons. Donc le premier, c'est le grunt que vous entendez peut-être. J'espère qu'il va en refaire, j'imagine que oui. Donc ce sont des sortes de grognements en fait, ça sonne comme un tout petit peu, et donc l'idée c'est que c'est des cris qui vont être utilisés dans les situations de repos, de nourriture, pour saluer les congénères, etc. Deuxième type de cri, c'est le bark, un cri beaucoup plus puissant, beaucoup plus harsh aussi en quelque sorte, et qui est un cri qui va être utilisé surtout dans des situations agonistiques. Une autre unité vocale que personnellement je distingue, ce serait le panting qu'on trouve dans, notamment dans le rire des chimpanzés. C'est une sorte d'exhalation et d'inhalation en quelque sorte, surtout d'exhalation. Donc là, on a typiquement une scène de jeu en captivité. Et c'est que quand on chatouille les chimpanzés, on peut obtenir ce genre de sons qui sont typiquement des sons d'exhalation. Finalement, le dernier son que je trouve le plus fascinant, c'est le ou, qui est un son qui est utilisé dans de très nombreux contextes. Donc là, ça va être assez soft, mais je vais vous faire écouter un son en repos. Donc, ce son assez soft de ou, qui est dans ce contexte-là utilisé dans les situations de repos, mais qui peut aussi être utilisé pour initier un voyage. Et enfin, qui est utilisé pour montrer aux congénères un danger dans l'environnement. Donc là, typiquement, c'est une expérience de Katie Crockford. Il y a un faux serpent ici. Le chimpanzé va le voir, il va émettre des cris pour prévenir ses congénères. Donc là, on a affaire à un cri qui ressemble à un ou, mais en fait qui est gradé dans un bark. Donc c'est ça typiquement toute la complexité du vocabulaire un peu chimpanzé, c'est qu'on comprend vraiment mal la distinction acoustique entre les barrières, en fait, les frontières entre les différents types de cris. Moi, je me suis intéressé au rôle de l'affect dans la production vocale des chimpanzés parce que, en fait, dans mes travaux antérieurs, je bossais sur la contagion des émotions, de la peur en foule. Donc je bossais sur les émotions en général chez l'humain. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un parallèle qui était fait sans cesse fait entre la communication émotionnelle chez l'homme et la communication tout court chez l'animal non humain. L'idée, c'est en fait, les animaux non humains, ils ont la communication émotionnelle et l'humain a évolué une communication autre que émotionnelle. Mais nous avons toujours notre communication émotionnelle et c'est en gros ce qu'on retrouve chez les autres animaux, et notamment les chimpanzés. Et cette idée, elle est un peu vieillotte, mais elle est présente dans la littérature vraiment. Elle date d'un peu avant ces travaux de Jurgens, mais sans sont des fondamentaux. C'est que, en fait, ce que Jurgens fait, c'est qu'il va stimuler électriquement certaines aires cérébrales du singe écureuil. Et ce qu'il montre, c'est que quand il stimule certaines aires cérébrales, et ben, il y a des vocalisations par le singe écureuil. Et en fait, il fait deux hypothèses. Il se dit, ben, soit en fait, on fait une stimulation électrique et la phonation, donc là, c'est une voix phonatoire, soit en fait, quand on fait une stimulation électrique, on change l'affect ou l'état physiologique de l'animal, ou l'état émotionnel de l'animal, et là, eh ben, on a une production vocale. Et ce que ces travaux montrent, c'est que c'est une voix numéro 2, c'est-à-dire la voix émotionnelle, c'est-à-dire quand on fait une stimulation électrique, ça change l'état affectif. Et ensuite, il y a la vocalisation. Et donc, l'idée de Jurgens, c'est de montrer qu'en fait, il y a un lien très fort entre la vocalisation et la production, entre les émotions et la production vocale chez, en tout cas, le singe écureuil. Mais plus récemment, chez les Ouistitis, on a examiné le rôle des paramètres physiologiques, notamment les fluctuations du rythme cardiaque, dans la formation des schémas respiratoires. Et ce dont on se rend compte, c'est que les schémas respiratoires vont contribuer à la production vocale, ce qui va encore une fois conférer aux états affectifs, émotionnels, physiologiques, un rôle central de la production vocale des Ouistitis. Et en fait, cette idée qu'on fait un mapping entre certains cris et certaines situations affectives, certaines expériences affectives, elle est extrêmement présente. C'est une stratégie en fait épistémologique pour décrire le comportement vocal, notamment des chimpanzés. Et en fait, on doit cette phrase à Jane Goodall. Jane Goodall va dire, en fait, les vocalisations des chimpanzés sont bound à l'émotion, c'est-à-dire sont tenues à l'émotion en quelque sorte, liées à l'émotion. la production d'un son en l'absence d'un état émotionnel approprié, c'est presque une tâche impossible pour un chimpanzé. Donc l'idée, c'est qu'il y a toujours une émotion quand il y a production vocale. Et elle va plus loin, en fait, elle va faire une description du répertoire de telle manière, en fait, est-ce qu'elle va avoir des cris et différents états affectifs, elle va montrer qu'en fait, il y a une relation parfois presque singulière entre certains cris du répertoire vocal et certains états affectifs. Et en fait, des questions de recherche que je me suis posées dans mon travail à Budongo, c'est dans quelle mesure la production vocale elle va dépendre de l'état affectif chez les chimpanzés. Et si elle est totalement affective, ça veut dire que la production vocale n'est pas indépendante de l'état affectif et physiologique de l'animal. Donc en fait, les chimpanzés sont capables de produire des sons seulement sous l'empire d'un état affectif. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, on a en fait pas vraiment accès à l'état émotionnel affectif de l'animal. Et mon boss de postdoc de l'époque, Klaus Superbühler, qui est un grand primatologue suisse, m'avait signalé cet article qui en fait affirmait qu'il y avait un truc un peu spécial chez l'homme. Et c'est ce qu'il appelait la functional flexibility, donc la flexibilité fonctionnelle du comportement vocal chez l'homme. Et ce qu'il disait, c'est que chez l'homme, la production de son est détachée d'une force illocutoire particulière et est détachée et peuvent produire une variété d'effets perlocutoires. En langage simple, ça veut dire en fait, on peut produire des sons qui peuvent faire n'importe quoi, qui peuvent avoir n'importe quelle fonction et sans qu'on ait à ressentir quoi que ce soit de particulier, en fait. Je vais prendre un exemple. Imaginez que je dise le train arrive. Dans une circonstance particulière, je pourrais le dire parce qu'en fait, je célèbre l'arrivée du train. Ok, donc c'est plutôt une situation un peu positive. Je pourrais dire aussi le train arrive pour vous signaler qu'en fait, il y a juste un train qui arrive. C'est une simple description du train, c'est un truc relativement neutre affectivement. Enfin, je peux aussi produire le train arrive pour vous raconter que je suis un peu saoulé du retard du train en fait. Donc il y a un état plutôt négatif. Et l'idée, c'est qu'on a exactement la même structure syntaxique à chaque fois, le même sens littéral, parce qu'un train arrive, effectivement, mais à chaque fois, on a une force illocutoire différente. C'est-à-dire qu'en tant que locuteur, on veut dire des choses différentes, et ça a des effets différents chez le récepteur. Et donc l'idée, c'est que quand on dit le train arrive, on peut en fait dire n'importe quoi. Je pourrais très bien avoir un code avec Michel pour dire le train arrive, et que ça voudrait dire que c'est l'heure de boire des bières, par exemple. En fait, je peux utiliser ces sons de manière totalement déliée d'une émotion. La prochaine fois que je dis le train arrive, tu sauras. Et donc, le train arrive, c'est une unité qui est fonctionnellement flexible, parce qu'on peut exprimer, entre autres, un état affectif positif, neutre ou négatif, lors de différentes occasions en utilisant cette unité vocale. Elle est totalement détachée d'un état affectif particulier. L'idée, c'est que, apparemment, ce serait une capacité extrêmement précoce chez l'homme. Elle serait observée chez les prématurés. Donc, qu'est-ce que les nourrissons humains vont exprimer? On peut imaginer la faim, le besoin de sommeil, la poursuite du contact avec les personnes qui s'occupent d'eux ou rien de particulier. Et on ne sait pas vraiment ce que ressentent les enfants, mais en fait, on peut se dire, voilà, la faim, le besoin de sommeil, ça peut être plutôt négatif. La poursuite du contact avec les personnes qui s'occupent d'eux, ça peut être plutôt positif si on est dans une situation un peu ludique. Et on peut aussi imaginer, dans une situation neutre, rien de particulier, donc l'enfant peut exprimer différentes choses. Et en fait, si on s'intéresse aux sons que produisent les enfants très jeunes, on a énormément de sons, mais entre autres ces quatre catégories, le vocon, squeal, growl et cry, j'ai pas pris le risque de vous les faire écouter, mais je pouvais les faire écouter un peu plus tard. Et ce que ce sont les vocons, c'est des sons qui sont semblables aux voyelles. Et en fait, ce que montrent Holler et collègues, qui sont donc les auteurs de cette étude, c'est que les cris, on les trouve qu'en situation négative. C'est-à-dire qu'on produit un cri quand on est en situation de plainte. Okay, et ça, on peut voir avec le visage de l'enfant notamment. Par contre, les autres sons, squeals, vocons et growls, en fait, ils peuvent être produits pour signifier un état positif, un état neutre ou un état négatif. Okay. Et en retour, ils peuvent avoir des effets sur les parents qui sont consistants avec la force illocutoire, avec ce que veut en fait exprimer l'enfant. Et on appelle ça des protophones dans cette compréhension. Et l'idée, c'est que, en fait, l'enfant humain, très précocement, peut-être même de manière prématurée, il peut utiliser ses cris pour dire n'importe quoi, pour signaler un peu tout ce qu'il veut à différentes occasions. Et une des preuves ultimes de ça, donc ça c'est un graphique qui est pas très lisible, mais ici vous voyez chacun des 9 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de l'étude. Vous voyez ici positif, neutre, négatif, et les types de sons qui sont des protophones. Et quand il y a un plus ici, ça veut dire que cet individu-là, il utilise le son squeal plus souvent en négatif que les autres individus. Et ce qu'on peut voir en fait avec ce schéma, c'est qu'en fait, chacun des enfants va avoir une utilisation presque individuelle du cri, en fait, ce qui suggère vraiment qu'ils sont fonctionnellement flexibles parce que l'enfant peut exprimer un peu ce qu'il veut avec ses cris. Okay? Et en retour, donc, quand l'enfant exprime ses cris, il les exprime avec certaines forces illocutoires et ça a certains effets perlocutoires chez l'audience, de telle façon qu'un cri qui est exprimé avec un affect négatif, va avoir une réaction de protection chez la mère et une réaction de proaction lorsque le cri est exprimé de façon plutôt positive. Donc, pour finir sur ce point, donc à la naissance, existence de sons qui peuvent prendre différentes forces locutrices à différentes occasions. Les bébés peuvent exprimer ce qu'ils veulent avec ces sons et à leur guise, il n'y a pas de lien de dépendance entre ces sons et un état affectif particulier chez l'homme. Et en fait, ce n'est pas une capacité linguistique superflue. En fait. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pouvez pas apprendre des mots qui n'ont pas de sens particulier. Vous ne pouvez pas produire des sons qui peuvent ensuite vouloir dire n'importe quoi. Okay? Et donc, il mettait aussi au défi la communauté scientifique primatologique en disant, bah voilà, si on montre que les animaux non humains, les primates non humains en particulier, en fait, ils ne sont pas capables de produire des sons qui sont déliés d'un état affectif particulier, alors ça veut dire que là, en fait, on a mis en évidence une différence cognitive fondamentale entre l'homme et qui en fait est même précède même la présence de la syntaxe et d'autres capacités langagières. Donc, c'est vraiment un truc très fondamental. Et vite fait, en fait, des collègues se sont intéressés à savoir si cette capacité était aussi présente chez d'autres espèces, et notamment ma collègue Zana Clay de l'université de Durham a étudier les bonobos, elle montrait que certains cris que les bonobos utilisent, qui sont les pips, sont des, que vous allez entendre, je pense, ce genre de cris, en fait, sont fonctionnellement flexibles. C'est-à-dire qu'elle arguait qu'en fait, on pouvait trouver ces cris dans des situations qui seraient positives, de nourriture, dans des situations neutres où il n'y a pas de nourriture, et des situations d'alarme. Le problème de cette façon de distinguer les différents contexte, c'est qu'on pouvait très bien imaginer qu'en situation de nourriture, en fait, on faisait le pip parce qu'on était un peu embêté par un voisin qui voulait nous piquer notre nourriture, en fait. Donc, il fallait pour nous s'intéresser plus particulièrement au comportement, à l'état, à ce qui pourrait trahir l'état affectif de l'animal sur le moment, et pas à une catégorie générale, en fait. Et donc, pour ça, moi, j'ai travaillé avec mes collègues à faire la même étude que ce qu'avaient fait Oller et collègues chez les humains, mais chez les jeunes chimpanzés de 0 à 12 mois. Et on avait énormément de challenges. Le premier, c'était comment savoir ce que les chimpanzés ressentent. Il y a différentes façons de faire ça. Une des façons, c'est de regarder les expressions faciales comme on fait chez l'homme. Donc ça, typiquement, la play face, c'est une situation ludique, donc essentiellement positive pour le chimpanzé. Le problème, c'est que ce genre d'expression faciale extrêmement caractéristique, elles sont caractéristiques chez le juvénile, ou l'enfant un peu plus vieux, mais dans la première année de vie, l'expression faciale est extrêmement mobile en fait. Donc on a pris une stratégie un peu couverte et on s'est dit on va regarder le comportement de l'animal vraiment sur le moment. Et par exemple, ici on va avoir des situations où l'enfant est en train de jouer vraiment, typiquement où il est engagé dans du jeu, des situations où il se nourrit vraiment au sens où il met un élément dans sa bouche qui est un élément qui se mange. On a des situations qui sont neutres, on va avoir des mouvements relativement simples et des mouvements aussi de repos. Et enfin, on avait des mouvements qui seraient plutôt liés à des états négatifs, qui seraient des mouvements où l'enfant va essayer de s'extirper notamment d'une situation sociale ou une situation avec sa mère. Le problème qu'on a eu numéro 2, c'est comment on classifie les sons. En fait, c'est un peu le bazar chez l'adulte et c'est encore plus le bazar chez l'enfant parce qu'il y a énormément de propositions. Il n'y a pas énormément de propositions et les propositions qui existent en fait sont pas très très claires. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un focus sur deux catégories vocales qui sont le grunt, encore une fois, qui est présent chez l'adulte, et aussi ce qu'on appelle le whimper, qui est une sorte de cri de détresse. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a une mère avec son enfant ici. Il y a une autre individu qui va venir et faire un grunt envers la mère pour la saluer. Et l'enfant va répondre, vous allez entendre, parce que c'est caractéristique au niveau de la fréquence du son. Et c'est ça qu'on entendait par grunt, essentiellement. Là, le son de l'enfant, l'adulte. Et donc ça, c'est le son de l'enfant qui serait une sorte de grunt, une sorte de grognement. Un autre son caractéristique, ça a été le whimper. Donc ça, c'est une situation où on va avoir deux enfants. Donc il y a cet enfant ici dont la mère est un peu cachée. Et il y a un enfant qui va jouer avec un autre, avec un juvénile en background, en arrière-plan, pardon. Et cet enfant-là, quand il va se rendre compte qu'il est un peu loin de sa mère, va faire un « ouh ». Et l'enfant de derrière va, lui, se mettre à faire un cri de détresse assez intense. Je vous laisse regarder. Le premier cri, vous allez peut-être pas l'entendre, mais essayez de faire attention à un cri qui ressemblerait à un « ouh » assez soft. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait ces cris un peu qui ressemblent à des pleurs, en fait, un peu si on voulait une comparaison avec les humains. Donc en fait, si on regarde la distribution affective, c'est difficile de savoir ce que les chimpanzés ressentent, effectivement, mais la façon dont on a approché, en tout cas, le phénomène, qui reste pour moi imparfaite, c'est qu'on se rend compte que le grunt, en fait, il intervient dans des contextes qui sont effectivement très, très variables, en fait. On peut le retrouver dans des situations plutôt positives, également aussi neutre et enfin un tout petit peu négative. Et si on regarde le son de whimper, il est complètement biaisé pour être affectivement produit dans les situations qui sont négatives. Si on regarde le pattern individu par individu, on se rend compte que effectivement il y a une distribution assez ouverte en fait du grunt. Il peut occurrer dans différents types de contextes affectifs, alors qu'en fait le whimper, il est complètement biaisé affectivement pour exprimer des choses qui vont être plutôt négatives. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on regarde l'utilisation individuelle des grunts, donc c'est un graphe un peu difficile à comprendre, mais l'idée, c'est que si plus c'est foncé et plus c'est entouré par des lignes qui sont solides, et ben plus on a une présence du cri plus qu'attendu dans le reste des individus. Et ce dont on peut se rendre compte, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'utilisation qui va être individuelle du grunt. Certains individus vont produire plus de grunt en situation positive, d'autres plus en situation neutre, etc. En fait. Donc ça suggère, comme pour l'enfant humain, qu'en fait, les chimpanzés ont cette base vocale, le grunt, qui serait fonctionnellement flexible, qui n'aurait pas d'attache émotionnelle particulière. Si on regarde ensuite les comportements de réaction des mères, ce qu'on peut voir, c'est que là, ce sont en situation négative, en situation neutre, en situation positive. Est-ce que la mère ne va pas avoir de réaction? Est-ce qu'elle va avoir une réaction qui va être proactive ou plutôt ici en bleu protective, donc de protection? En situation neutre, on a une grande partie de non-réaction de la mère. Si on regarde en situation négative, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi la neutralité de la mère. La mère intervient peu chez le chimpanzé, en fait. Et lorsqu'elle intervient, elle va être plutôt protectrice, en fait, de l'enfant. Si on regarde en situation positive, également, de manière générale, il y a peu d'intervention de la mère chez le chimpanzé. Mais s'il y a intervention, en fait, ça va être une intervention qui va être plutôt proactive, en fait, pour essayer de continuer l'interaction avec l'enfant. Donc ça semble dire aussi qu'en fait, les grunts permettent aux jeunes chimpanzés d'exprimer aussi particulièrement un état positif, négatif ou neutre à différentes occasions. Donc en fait, ce que ces travaux semblaient suggérer, mais ça demande plus de travail, j'ai un doctorant qui travaille sur ce sujet-là à Portsmouth et qui aussi essaie de voir comment ces cris évoluent avec l'âge, ça suggère qu'en fait, les chimpanzés auraient aussi ce type de cri qui serait fonctionnellement flexible. C'est-à-dire des cris qui seraient indépendants d'un état affectif particulier, avec un pattern d'utilisation qui va être relativement individuel, des réactions qui vont être cohérentes de la mère. Et donc, ce que ça semblerait dire, c'est qu'en fait, cette capacité de produire des sons qui ne sont pas affectivement biaisés, en fait, elle date plus que de la division entre l'ancêtre... Elle date plus que de l'ancêtre commun entre... Pardon, de la division entre les hommes et les pans, les chimpanzés, mais qu'il pourrait être même, en fait, présent dès l'ancêtre commun des chimpanzés et des humains, et des bonobos, mais en fait, ça suppose aussi de regarder l'évolution de ce trait, donc l'histoire évolutive de ce trait chez d'autres espèces de grands singes. Et il est aussi possible qu'il y ait des situations d'évolution convergente, c'est-à-dire qu'on va trouver chez des espèces qui sont totalement déliées génétiquement de l'être humain, donc qui sont lointaines évolutionnairement. On pourrait imaginer qu'on va trouver ce genre de capacité vocale qui va évoluer dans une autre branche phylétique. En tout cas, je voulais vous montrer donc cette étude parce que c'est un exemple d'étude que l'on peut mener chez des animaux qui sont pourtant sauvages et donc relativement difficiles d'accès. Et aussi, je voudrais dire que c'est aussi possible de mener une approche expérimentale et ça se fait de plus en plus en modifiant minimalement l'environnement de l'animal. Typiquement, mon collègue Thibaut Gruber qui fait des travaux spectaculaires sur la transmission culturelle chez le chimpanzé montre que les chimpanzés vont avoir une sorte d'innovation technique à certains moments dans la forêt. Et aussi, d'autres travaux spectaculaires de Katie Crockford, avec qui j'ai eu la chance de travailler, montrent aussi que les chimpanzés adaptent leur comportement vocal d'alarme. Ils voient un danger, ils vont adapter leur comportement vocal d'alarme aux états épistémiques informationnels de leur congénère. C'est-à-dire, si mon congénère ne sait pas qu'il y a un serpent, eh ben, je vais faire plus de cris, je vais les modifier, je vais regarder plus souvent, etc. En tout cas, la posture épistémologique qu'on a est très claire, c'est que l'animal, en tout cas le chimpanzé, c'est ce qui permet de comprendre l'évolution, l'histoire évolutive, on va dire, assez récente de nos traits cognitifs et psychologiques fondamentaux comme la communication, la culture, l'amitié, la coopération, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des universaux, en fait. C'est-à-dire que n'importe quel contexte, entre deux communautés de chimpanzés, il y a énormément de différences de comportement, en fait. Pareillement, entre les communautés humaines, il y a énormément de différences de comportement, mais que la plupart de ces différences de comportement, elles vont être dues à des modifications écologiques, en fait. C'est-à-dire qu'à certaines pressions écologiques un peu particulières. Je sais que ça a été un débat longtemps en anthropologie, mais en tout cas, c'est la sorte de posture épistémologique qu'on adopte dans ce domaine. Je voudrais conclure en disant que continuer à mener ces travaux et à les présenter, c'est aussi contribuer à la préservation d'une espèce qui est menacée par les activités humaines. Donc le chimpanzé est en danger selon la liste rouge de IUCN. En moins d'un siècle, les populations de chimpanzés auraient diminué de 75%. Et il existe des fondations, qui, notamment la Jane Goodall Institute et le Sebitoli Chimpanzee Project, qui est un projet hébergé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui s'occupe, par Sabrina Kriff, qui s'occupe de la conservation des grands singes en Ouganda et aussi ailleurs. Et sur ce, j'aimerais vous remercier de votre attention et je serai content de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup.
Ouais. Vous avez dit qu'il y avait différents cris, notamment pour des cris de danger. Et pour prévenir les prédateurs, est-ce qu'il y a des cris différents en fonction du prédateur ?
C'est une très bonne question qui est, à mon sens, pas très claire pour les chimpanzés. Il y a effectivement, si on voit un serpent qui est minimalement dangereux ou un truc un peu bizarre en fait, dans la forêt. Enfin, ça nous arrive d'avoir des choses un peu bizarres dans la forêt, comme, je sais pas, des bottes en plastique, ou enfin, des bottes, moi, ceux qui sont habitués, mais je me rappelle une fois de voir un sac plastique, en fait, traîner dans la forêt. Et de voir les chimpanzés extrêmement curieux et un peu aussi flippés de voir ça dans la forêt, et donc de produire des sons d'alarme. Donc ce fameux « ou » qui va être assez soft. Et lorsque le danger devient un peu important, ils vont produire le « bark ». Donc typiquement, quand on voit un léopard, ça n'arrive pas à Budongo, hein, mais à Thaï, notamment en Côte d'Ivoire, il y a plutôt des barques qui vont être produits lorsqu'on voit un léopard. Après, c'est important de dire que quand on fait un cri d'alarme, on ne signale pas forcément à ses congénères. Ça peut vouloir aussi dire au léopard, en fait, on t'a vu. Et il y a des animaux, des prédateurs, qui ont typiquement des techniques de chasse de telle façon que s'ils sont perçus, s'ils ont été détectés, en fait, ils arrêtent parce que ça ne sert plus à rien, quoi. Donc, chez chimpanzés, ce n'est pas très clair, en fait, qu'on ait des cris différents en fonction des prédateurs. Mais effectivement, chez d'autres espèces comme les vervets ou les blue monkeys que je vous ai montré, et potentiellement même les colobes noirs et blancs, on a, en tout cas les blue monkeys, on a ça. En tout cas, différents, pas différents cris selon les prédateurs, mais différents cris selon les techniques d'évacuation. Ou c'est pas très clair encore ce que ça code en fait comme type d'information. Ça semble sensible aux prédateurs, mais ça pourrait être sensible à la strate aussi où ça se passe en fait. Donc là, c'est un peu des questions qu'on se pose aussi en fait. Mais pas chez chimpanzés, à ma connaissance, en fait. Chez chimpanzés, ça a plutôt l'air d'être lié à l'intensité du danger, en fait. Oui. Alors, je ne suis pas linguiste. Je l'ai employé pour dire les effets que mon acte locutoire, mon acte de parole va avoir sur les autres individus à qui ma production vocale est destinée, en fait. C'est ce que j'entends par effet perlocutoire dans ce contexte-là précis.
Je me demande, par rapport à une des expériences, si j'ai bien compris, un moment où il y a une histoire de faux serpent, c'est ça ?
Oui.
Alors, au départ, le chimpanzé signale un danger, et puis tu dis, toujours si j'ai bien compris, qu'il passe vers le grunt, donc un son qui serait plutôt lié à une satisfaction type repas, etc. Mais est-ce que ça ne serait pas parce qu'il a compris que le serpent était faux?
Alors là, c'était plutôt un... En fait, le grunt lui-même va être utilisé pour différents types de situations. Donc, ça peut être pour la nourriture parfois, ça peut être pour saluer un congénère notamment qui est hiérarchiquement supérieur. Ça peut être aussi pour dans une situation où on va faire du repos, on va se mettre à se reposer. Et là, typiquement dans la situation que je vous montrais, c'était on commençait par un ou qui est un ou assez soft, et ensuite on va aller vers un bark. Et les barks sont plutôt des cris qui sont utilisés pour des cris d'alarme en fait. Donc, après, c'est évident qu'ils comprennent que ce sont des faux au bout d'un certain moment. Ce qui fait qu'on ne doit pas les exposer plus qu'ils ne seraient exposés de manière naturelle. Donc, ce qu'on va faire, typiquement, c'est de, pendant un an, noter combien de fois par mois on voit un serpent en tant que chercheur, combien de fois par mois on voit que les chimpanzés ont vu un serpent. Et l'idée, c'est qu'on va calquer le mode de présentation sur une fréquence assez similaire, en fait, pour éviter qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en train d'être un peu manipulés par... Parce que ça pourrait être, surtout chez les chimpanzés, en fait, très bien, très vite se rendre compte que la présence humaine d'un chercheur humain est associée à un faux serpent. Et donc, que quand il y a une situation qui est un peu expérimentale avec une nouveauté dans l'environnement, c'est l'humain qui l'a mis, en fait. Je pense qu'ils s'en rendent compte assez vite, j'imagine, ouais. Et après, on rivalise d'astuces pour rendre les modèles aussi beaux que possible, aussi précis que possible. Mais c'est difficile parce qu'on a affaire à des animaux qui s'occupent de serpents toute leur vie, en fait. Donc, voilà. Ouais.
J'y connais pas grand-chose dans ce domaine, mais je me demandais s'il y avait des liens entre les études, enfin, les travaux par exemple, et les études des champs de baleines et des choses comme ça. Si, point de vue de la méthode ou alors des questionnements.
Donc les méthodes, ça va être les mêmes au sens où on va utiliser des micros, donc les micros sont forcément différents dans des milieux aquatiques ou de forêt, mais les méthodes acoustiques vont être à peu près les mêmes. C'est des fréquences qui sont différentes, etc., mais ça va être à peu près les mêmes. Et la seule différence que je verrais peut-être de manière visible, c'est que c'est plus difficile avec certains mammifères marins de comprendre le contexte d'émission, des vocalisations, alors que nous, on y a accès pas de manière parfaite, hein, parce qu'en fait, la forêt, c'est extrêmement bruité, non seulement sonorement, mais aussi perceptuellement. Il y a plein de feuilles partout, typiquement, en fait. Et donc, on voit aussi, des fois, très peu ce qui se passe, quoi. Mais c'est le même genre de communauté scientifique, en fait. Mais ça apporte le nom de bioacoustique, typiquement, vraiment, pour ceux qui s'intéressent vraiment au son. Quand on a une interface un peu plus comportementale, on va parler de psychologie comparée, primatologie, écologie comportementale, ce genre d'approche, en fait. Ouais. Mais c'est effectivement lié. Ce sont des communautés qui se parlent, en tout cas. Ouais. Oui.
Est-ce qu'une fois que toutes ces données de la vocalisation ont été réunies, il y a eu des projets ou des tentatives d'interaction avec le chimpanzé ou une autre espèce similaire, dans le but de voir leur réaction, l'interaction humain-chimpanzé, dans le but de voir la réaction et d'enregistrer la réaction, d'avoir d'autres données, etc., d'expérimenter ça?
Typiquement, là, dans cette situation avec des animaux sauvages, l'idée, c'est qu'on fasse en sorte d'avoir le moins d'interférences possible, en fait. Donc, nous, on marche à côté, on est là, on les regarde pas trop, on a la caméra braquée sur eux, mais on évite les interactions vraiment visuelles, c'est-à-dire on les regarde pas dans les yeux, on les suit pas de trop près, on n'a pas d'interaction réelle avec les chimpanzés en sens strict là. Et il arrive parfois qu'ils veulent avoir des interactions. Certains vont s'approcher très, 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 très proche, peut-être un peu même des fois provoquer, notamment les juvéniles, en fait. Mais la conduite, c'est on ne réagit pas, on reste stoïque et on fait semblant de n'avoir rien vu. Ça, c'est typiquement avec les chimpanzés. Il y a deux espèces avec lesquelles on a plus forcément d'interaction. Typiquement, au camp, on vit avec beaucoup de babouins qui sont plus proches de l'homme, qui volent de la nourriture parfois au camp, etc. Donc, on a des interactions un peu plus proches avec ces espèces-là. Mais chez les chimpanzés, non, il y a une stricte conduite de neutralité comportementale, c'est-à-dire on n'intervient pas, jamais. Et vraiment, l'idée, c'est de rester le plus immobile possible dans toutes les circonstances, quoi. Après, je pense que c'est évident qu'ils ont une compréhension de l'homme comme un agent, en fait, qui a des relations sociales, etc. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'ils pensent de nous, en fait. Est-ce que des individus qui sont souvent ensemble, soit, par exemple, des individus qui sont amis, des gens qui font partie du même groupe, des gens qui ont le même genre de comportement, est-ce que si je vous vois faire quelque chose avec votre camarade à côté, est-ce que je vais faire d'autres inférences sur les similitudes comportementales que vous allez voir? Ça, c'est vraiment des recherches qui sont, à mon sens, importantes pour comprendre un peu la psychologie sociale du chimpanzé, en fait. C'est-à-dire, quel genre de psychosocial a un chimpanzé, en fait? Psychosocial naïf, en quelque sorte, mais qui sont plus adaptés à la captivité, là où, en fait, on peut vraiment manipuler beaucoup de choses. On n'aura pas l'interaction vraiment physique avec les chimpanzés, qui sont des espèces un petit peu agonistiques et pas toujours tendre, surtout en captivité, mais ça s'imagine sans doute avec d'autres espèces qui sont peut-être plus propres pour ce genre d'interaction. Mais vraiment, la science moderne de la psychologie comparée à la primatologie, c'est vraiment d'éviter l'interaction homme-animal, parce qu'on a eu beaucoup de projets, notamment sur faire apprendre aux animaux le langage des signes et ce genre de choses, où en fait on se retrouve avec des animaux qui vivent toute leur vie en captivité et qui n'ont pas une vie d'animaux. Je crois aussi que c'est ça, moi, la leçon que j'ai apprise, si je le savais au début, c'est que considérer l'animal comme un organisme qui vit dans son environnement, l'idée, c'est qu'il ne faut pas chercher à intervenir, en fait, trop, quoi. Même s'il y a un intérêt scientifique certain, effectivement, ouais.